Audiolib présente Elantris, volume 2, Rédemption, de Brandon Sanderson. Traduit de l'anglais par Pierre-Paul Durastanti et Alexandra Maillard. Lu par Hervé Grull,
Zina Kakulia
et Nicolas Bernot.
Chapitre 22. Raoden s'avança centimètre par centimètre pour risquer un regard à l'angle de la rue. Il aurait dû transpirer. En fait, il ne cessait de s'essuyer le front, et donc de le tartiner de la crasse omniprésente des Elantris. Genoux tremblants, il se colla à la clôture en bois pourri pour guetter un danger au carrefour.
« Soulé, derrière toi !»
Le prince fit volte-face en entendant l'avertissement de Galadon, dérapa sur les pavés boueux et s'étala. La chute le sauva. Il tâchait de trouver une prise pour se relever quand il sentit un déplacement d'air au-dessus de lui, alors qu'un fou hurlant percutait la barrière, des éclats de bois fusèrent. Il se remit debout tant bien que mal. Son assaillant réagit beaucoup plus vite. Chauve, presque nu, ululant et grondant comme un chien, il acheva de démanteler la barrière. Galadon lui abattit une planche sur la figure, puis profita de son hébétude pour ramasser un pavé et le lui flanquer dans la tempe. Le fou s'effondra pour ne plus se relever. Le Dula se redressa, puis lâcha le pavé. « Il gagne en force, Sulé. On dirait qu'il ne ressent plus la souffrance. » Raoden hocha la tête et tenta de se calmer. « Ils n'ont pas pu capturer un seul nouveau venu depuis des semaines. » Le désespoir les gagne, et ils sombrent toujours davantage dans la bestialité. J'ai entendu parler de guerriers qui enragent tant et si bien durant leurs combats qu'ils ignorent des blessures mortelles. Le jeune homme s'interrompit. Galadon piquait le corps de l'attaquant à l'aide d'un bâton, pour s'assurer qu'il ne feignait pas. Ils ont peut-être trouvé le secret ultime qui les préserve de la douleur. Oui, il leur suffit de renoncer à leur humanité. Le Dula secoua la tête, et ils repartirent à pas de loup dans le marché des Elantris, parmi les débris de métal rouillé et de céramique gravée d'Aon qui s'y entassaient. Ces vestiges produisaient jadis des effets merveilleux, pour des prix astronomiques. Ils ne formaient plus que des obstacles à contourner ou enjamber. Marcher dessus aurait produit un concert de crissements et de grincements qui aurait alerté tout le voisinage. « On aurait dû amener Saolin, » murmura Galadon. « Non, » fit Raoden sur le même ton. C'est un bon soldat et un excellent compagnon. Mais la furtivité n'est pas son fort. Même moi, je l'entends approcher. Et il aurait voulu prendre un groupe de garde avec lui. Il refuse de croire que je sais me défendre par mes propres moyens. Le Dula jeta un regard en direction du fou qu'il avait mis hors d'état de nuire. Puis considéra son compagnon d'un air sardonique.
« Si tu le dis, Sulé... »
Le prince sourit. « Bon, j'admets qu'il aurait pu être utile. » Mais ces hommes auraient tenu à me choyer. Franchement, je croyais avoir laissé tout ça dans le palais de mon père. Galadon haussa les épaules.
On protège ce qu'on estime important. Si cela te pose un problème, tu n'aurais pas dû te rendre irremplaçable, Colo.
Je te le concède, soupira le prince. Continuons. Ils reprirent leur chemin en silence. Le Dula avait protesté durant des heures après que Raoden avait mentionné son plan téméraire, inutile, dangereux et surtout stupide pour le colosse d'infiltrer le quartier général de Shaor et de défier le chef de bande. Mais il avait aussi refusé de laisser le jeune homme y aller seul. Le prince savait que tous les qualificatifs employés par son ami étaient justifiés.
Ces sauvages les démembreraient sans y réfléchir à deux fois, sans même y réfléchir du tout, vu leur état mental.
Mais au cours de la semaine passée, ils avaient encore tenté par trois fois de s'emparer du jardin. Les gardes de Saolin collectionnaient les blessures et les sbires de Shaor semblaient de plus en plus violents. Il secoua la tête. Si sa propre troupe gagnait en nombre, ses partisans restaient diminués, alors que chacun de leurs ennemis manifestait une force terrifiante, nourrie par sa rage et les qualités physiques d'un guerrier. Ses fidèles n'allaient plus pouvoir leur résister bien longtemps. Il devait trouver ce Shaor, lui parler, lui faire accepter un compromis. Or, l'autre ne participait jamais au raid. Tout le monde appelait sa bande « les hommes de Shaor », mais nul ne se rappelait avoir vu l'individu en question. Il se pouvait qu'il s'agisse d'un maniaque indifférenciable de ses sbires, ou qu'il ait rejoint les rangs des Oèdes depuis longtemps et que son groupe persiste malgré l'absence de chef. Le prince sentait, ou voulait croire, que Shaor était en vie. Il avait besoin d'un adversaire tangible. Les démons étaient trop éparpillés pour qu'on leur inflige une défaite complète et surpassaient en nombre ses soldats. À moins que ce Shaor n'existe, qu'il n'accepte un accord et qu'il ne contrôle ses partisans, la bande de Raoden risquait gros. « Nous y voilà », murmura Galadon, lorsqu'ils atteignirent un dernier embranchement. Avisant des mouvements au bout de la rue transversale, ils attendirent avec anxiété le départ des silhouettes indistinctes. Puis le Dula désigna d'un coup de menton l'édifice qui se dressait face à eux. Trapu, massif, imposant, il avait des murs plus noirs que la gangue de crasse ne le justifiait. La banque, destinée aux négociants locaux. On jugeait beaucoup plus sûr d'installer un tel établissement à Elantris qu'à Kae. Raoden hocha la tête. Certains marchands, dont son père, avaient refusé d'accorder leur confiance aux Elantriens. Leur entêtement à entreposer leurs richesses hors de la cité s'était révélé bien inspiré. « Tu crois que Shaor s'y trouve ?»« C'est ce que je choisirais comme base. Vaste, imposante, facile à défendre. Le repère idéal pour un seigneur de guerre. Allons-y alors. » La banque était occupée, sans doute possible. De fréquents passages avaient laissé des éraflures dans la boue du perron et on entendait des voix au fond du bâtiment. Galadon jeta un regard interrogateur sur son compagnon, qui hocha la tête. Ils entrèrent. L'intérieur était aussi morne que l'extérieur, terne et sale, même pour Elantris la déchue. La porte de la chambre forte, un large disque rehaussé d'un épais haon et d'eau, béait. Les voix provenaient de cette salle. Raoden, prêt à affronter le dernier des chefs de bande, prit une profonde inspiration.
« Apportez-moi à manger !»
glapit une voix aiguë. Le jeune homme se figea et se pencha sur le côté pour jeter un regard dans la chambre forte. Au fond, assise sur un tas de lingots d'or, il y avait une enfant à la crinière aonique blonde, mais à la peau noire et grise des Elantriens, vêtue d'une robe rose immaculée. À genoux, les bras tendus, 8 hommes en haillons étaient en adoration devant elle.
« Apportez-moi à manger !»
répéta la fillette d'un ton sans réplique. « Que j'aille pourrir en Doloken !» jura Galadon dans le dos du prince. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»«
Shaor ?»
dit Raoden qui contemplait la scène, stupéfait. Tout à coup, il reporta son attention sur l'enfant et découvrit qu'elle le regardait droit dans les yeux.
« Tuez-les !»
hurla Shaor.
« Idos Domu !»
Le jeune homme pivota sur ses talons et fila vers la porte.
« Si tu n'étais pas déjà trépassé, Sulé, je te tuerais !»
dit le Dula. Raoden, qui, épuisé, s'appuyait contre un mur, acquiesça. Il s'affaiblissait de jour en jour. Galadon l'avait averti. C'était vers la fin du premier mois que les muscles d'un Elantrien s'atrophiaient le plus. L'exercice physique n'y changeait rien du tout. L'esprit avait beau fonctionner et la chair subsister, l'organisme restait convaincu de sa mort. Les vieux trucs marchaient toujours. Ils avaient fini par perdre les sbires de Shaor en escaladant un mur brisé et en se cachant sur un toit. Les fous agissaient peut-être en meute, mais ils n'avaient pas encore acquis l'odorat d'un chien. Ils étaient passés plusieurs fois près de leur planque sans même songer à lever la tête. Ils mettaient de l'enthousiasme dans la traque, mais aucune intelligence.
« Shaor est une petite fille !»
murmura le prince, choqué. Le Dula haussa les épaules.
« Sulé, moi non plus, je n'y comprends rien. »«
Ah, je comprends. Par contre, j'ai du mal à y croire. Tu ne les as pas vus à genoux devant elle ?
Cet enfant est leur divinité. Shaor, l'idole incarnée qu'ils prient. Ils ont régressé pour adopter un mode de vie plus primitif
et la religion qui l'accompagne. »
« Prends garde, Sulé. Beaucoup de gens qualifient le Jesker de primitif. »
« Entendu. »
Du geste, Raoden indiqua à son compagnon qu'il fallait repartir. « J'aurais plutôt dû dire simpliste. Ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Une fillette aux longs cheveux blonds
et décidé qu'ils devaient l'adorer. Ils l'ont placée sur un autel. Elle leur donne des ordres. Quand elle veut de la nourriture, ils vont la lui chercher. Puis elle les bénit, ostensiblement.
Sa chevelure m'intrigue, d'ailleurs.
Il s'agit d'une perruque. Je connaissais cet enfant. Elle avait pour père l'un des ducs les plus riches du pays. Elle est restée chauve et lui a donc fait confectionner une perruque. Les prêtres n'auront pas pensé à la lui retirer avant de la jeter dans Elantris.
Quand le Shaod l'a-t-il prise ?
Voici plus de 2 ans. Le duc Tellri a voulu dissimuler ce qui lui était arrivé. Il a toujours affirmé qu'elle était morte de Diony, mais la rumeur courait.
Exact, apparemment.
Oui, je ne l'ai vue que 2 fois. Son nom m'échappe. Il se basait sur Laon Soy, je crois. Soyné, peut-être. Mais c'était une enfant gâtée, insupportable au possible.
La candidate parfaite au rôle de déesse, alors, dit le Dula avec une grimace sarcastique.
En tout cas, tu avais raison sur un point. Impossible de s'entendre avec Shaor. Dehors, elle était déjà irraisonnée. Ce doit être 10 fois pire à présent. Elle a faim. Ses hommes lui apportent de quoi manger et elle ne cherche pas plus loin. Ils tournèrent un coin de rue pour déboucher enfin dans leur section d'Elantris. Ou de la nouvelle Elantris, comme les gens commençaient à l'appeler.
« Bonsoir, messire !» lança un jeune soldat robuste qui se redressa à l'approche du prince en tenant sa lance de fortune bien droit contre son flanc.
« Le capitaine Saolin a fort mal accueilli votre disparition, » ajouta la sentinelle. « Je veillerai à lui présenter mes excuses, Dionne. » Raoden et Galadon retirèrent leurs souliers, les posèrent le long du mur auprès d'autres pères souillés, puis chaussèrent les propres qu'ils avaient laissés là avant de se débarbouiller à l'aide d'un seau d'eau. Leurs habits ressortirent sales de ce lavage, mais les 2 hommes avaient fait de leur mieux. L'étoffe restait rare malgré les diverses sorties que le prince montait pour ramasser tout ce qui se récupérait. L'immense cité recelait une quantité stupéfiante d'articles, certes abîmés par la corrosion ou la pourriture, qu'un peu de motivation et d'organisation permettait d'utiliser, des pointes de lance aux meubles. Avec l'aide de Saolin, Raoden avait isolé une section de la cité relativement défendable pour créer la nouvelle Elantris. Seules 11 rues y conduisaient, et un muret dont l'objectif originel les laissait perplexes l'entourait même sur la moitié du périmètre. Le prince avait posté au bout de chaque artère des sentinelles qui guettaient les intrus en maraude. Ce système leur évitait l'invasion. Par bonheur, les sbires de Shaor attaquaient en petits groupes. Tant que les gardes étaient prévenus, ils avaient le loisir de se rassembler et de les repousser. Mais si un assaut concerté venait de plusieurs directions, ce serait un désastre. Les sauvages pris de folie balayeraient les hommes affaiblis, les femmes et les enfants formant la bande de Raoden. Saolin commençait d'enseigner aux plus aptes des techniques simples de combat, mais il se limitait aux méthodes élémentaires, de peur que les blessures de ses pupilles lors de telles séances d'entraînement ne se révèlent plus dangereuses que les attaques de l'ennemi. Si le prince se fiait aux discussions qu'il surprenait, ses partisans ne croyaient pas qu'on en arrive là. Ils espéraient que Messire Esprit parviendrait à circonvenir Shaor, comme il l'avait fait pour Aanden et Karata. La souffrance l'accabla à l'approche de la chapelle, tandis que ses 10 aines de plaies et bosses se mettaient à le torturer. Il lui semblait que son corps se retrouvait gancé d'un feu qui brûlait sa chair, ses os et son âme. « J'ai échoué, » murmura-t-il. Le Dula secoua la tête. « On n'a pas tout ce qu'on veut dès le premier essai. Colo, tu trouveras un moyen. Je n'aurais jamais cru que tu obtiendrais de tels résultats. »
« J'ai eu de la chance, » songea le prince dans sa douleur. « Une veine de pendu. »«
Sulé ?»
Galadon le regardait d'un air anxieux.
« Tu vas bien ?»«
Je dois résister. Ils ont besoin que je sois fort. »
Réprimant un cri de défi, il s'extirpa des brumes de la douleur et afficha un pâle sourire.
« Mais oui. »
« Je ne t'avais jamais vu cet air, Sulé. »
Raoden secoua la tête et s'appuya au mur de pierre d'un bâtiment.
« Ne t'en fais pas. Je me demandais juste comment procéder avec Shaor. On ne peut pas la raisonner ni vaincre ses hommes. »
« La solution finira bien par t'apparaître, »
dit le Dula dont le besoin évident d'encourager son ami noyait le pessimisme habituel.
Ou sinon, on mourra tous,
songea le prince qui crispa ses mains sur l'angle du mur qui l'agrippait.
Et pour de bon.
Avec un soupir, il se redressa, et la pierre se fragmenta entre ses doigts.
Il se retourna et étudia le mur, surpris.
Kahar venait de le nettoyer. Le marbre blanc luisait au soleil.
Sauf là où le prince venait de le briser.
« Tu ne te croyais pas aussi fort ?»
lança Galadon avec un sourire narquois.
Raoden haussa les sourcils et gratta le marbre qui s'effrita davantage.
« Aussi friable que de la pierre ponce !»«
On est à Elantris, tout pourrit vite. »«
D'accord, mais du marbre ?»«
Tout, les gens aussi. »
Le prince tapota la zone affaiblie à l'aide d'un pavé et des éclats volèrent. Tout est lié, le Dor et Elantris, comme le Dor et l'Arelon.
Mais pourquoi détruirait-il la cité, Sulé?
Ce qui la détruit, c'est son absence. La magie, le Dor infusait Elantris. Chaque pierre brûlait de ses feux. Faute de receler cette puissance, la cité est creuse. Comme la mue d'un petit rempivière devenu trop grand pour sa peau. Les pierres sont vides.
Comment pourrait-elle être vide?
Rétorqua le Dula d'un ton sceptique.
Le jeune homme détacha un nouvel éclat de marbre et le broya entre ses doigts. Tu vois, mon ami, elles ont passé tant de temps infusées par le Dor que le Réode les a affaiblies de manière irrémédiable. Cette cité est un cadavre que son âme a déserté.
Maresh, qui accourait, épuisé, interrompit leur discussion.
« Messire Esprit ! »
s'écria-t-il d'un ton pressant.
« Qu'y a-t-il ? »
demanda Raoden avec inquiétude.
« Encore une attaque ?»
L'autre secoua la tête d'un air perplexe.
« Non, messire, il se passe quelque chose d'étrange. On dirait que quelqu'un a décidé de nous envahir. Mais qui nous envahirait ?»
Maresh haussa les épaules avec un demi-sourire.
« Une princesse, à ce qu'il paraît. »
Raoden, flanqué de Galadon, se tapissait sur le toit d'un bâtiment qui servait désormais de poste d'observation, afin de surveiller l'entrée des arrivants. De là, on voyait très bien ce qui se passait sur l'esplanade. Une foule s'amassait sur le chemin de ronde, et le portail béait, anomalie stupéfiante. D'ordinaire, sitôt les nouveaux venus poussés dans la cité, les gardes le refermaient, comme s'ils craignaient de le laisser ouvert un instant de trop. Mais il y avait plus curieux. Au milieu de la place trônait un attelage près duquel des gens bien habillés se serraient les uns contre les autres. Une seule personne parmi eux semblait sans peur. Une femme de haute taille, à la crinière blonde, vêtue d'une longue robe marron ajustée, un foulard noir noué autour du bras. Le visage aux traits bien dessinés, les yeux sagaces, elle flattait l'encolure d'un cheval nerveux et posait sur l'esplanade crasseuse et boueuse un regard spéculateur. Le prince relâcha sa respiration.
« Je ne l'avais vue que par Séon, » souffla-t-il. « Je ne m'étais pas rendu compte qu'elle était si belle. »«
Tu la reconnais, Sulé ?»
demanda son compagnon, surpris.
« Je crois bien que je suis marié avec elle. Tu as devant toi Saren, la fille du roi Eventéo de Théode. »«
Que fait-elle ici ?»«
Surtout... »
Que fait-elle ici, en compagnie de 10 des nobles les plus influents d'Arelon? L'homme âgé à l'arrière, c'est le duc royal, le second personnage le plus puissant du royaume selon certains.
Galadon hocha la tête.
J'imagine que le jeune Jindoen est autre que Shuden, le baron de la plantation de Ka.
Raoden lui sourit.
Et moi qui te prenais pour un simple fermier? Son itinéraire caravanier traverse le centre de mon pays, Sulé. Il n'y a pas un Dula qui ignore son nom.
Tiens, les comtes Ahan et Eondel sont là aussi.
Au nom de Domu, que prépare cette femme?
Comme en réponse, la princesse Saren mit un terme à sa contemplation d'Elantris. Elle se détourna, gagna l'arrière du chariot, coupa court d'un geste impatient aux atermoiements des aristocrates pleins d'appréhension, tendit la main et retira vivement l'étoffe qui recouvrait le contenu. Le chariot regorgeait de provisions.
« Idos Domu !» jura le prince.
« On a un problème !»
Galadon le dévisagea, sourcils froncés, avec dans les yeux une lueur avide.
Par le Doloken, qu'est-ce que tu racontes, Sulé? Il y a là de la nourriture, et il me semble qu'elle va nous la donner. Où est le problème?
Elle doit effectuer son épreuve de la veuve. Il faut venir d'un pays étranger pour envisager d'entrer dans Elantris.
Sulé, explique-toi.
Elle a mal choisi son moment. Les nôtres commencent à se sentir indépendants, à se focaliser sur l'avenir, à oublier la souffrance. Si quelqu'un leur distribue de la nourriture, ils oublieront tout le reste. Durant un temps, ils auront de quoi manger, mais l'épreuve de la veuve dure quelques semaines tout au plus. Ensuite, ce sera de nouveau la douleur, la faim, l'apitoiement sur soi-même. Ma princesse risque de détruire tout ce que nous avons bâti.
Tu as raison. J'avais presque oublié ma famine jusqu'à ce que je voie ses provisions.
Raoden gémit.
Quoi ?
Demanda aussitôt Galadon. Qu'adviendra-t-il quand Shaor apprendra ce qui se passe ici ? Ces hommes attaqueront ce chariot comme une meute de loups. Qu'il tue un comte ou un baron, et il en résultera des dommages irréversibles. Mon père ne tolérera l'existence d'Elantris qu'aussi longtemps qu'il n'aura pas à s'en soucier. Mais il pourrait décider de nous exterminer jusqu'au dernier si un Elantrien tue l'un de ses nobles. Des gens sortaient des ruelles alentour. Aucun ne semblait un sbire de Shaor. C'étaient les misérables qui vivaient seuls, parcourant la cité telle des spectres. Jusque-là, ils rejoignaient peu à peu Raoden, mais la nourriture disponible allait mettre un terme au processus. Ils continueraient d'exister, sans but, égarés, prisonniers de la souffrance et de la damnation.
« Oh, ma princesse adorée !» murmura le jeune homme. « Tu as cru bien agir, mais tu ne pouvais pas faire pire pour nous. »
Maresh les attendait au pied de l'escalier.
« Vous l'avez vu ? »
demanda-t-il d'une voix soucieuse.
« Oui, »
répondit Raoden.
« Qu'est-ce qu'elle veut ?»
Avant qu'il ait pu répondre, une voix féminine très ferme s'éleva sur l'esplanade.
« Je souhaite m'entretenir avec les tyrans de cette cité, ceux qui se font appeler Aanden, Karata et Shaor. Présentez-vous devant moi. »
Le prince haussa les sourcils.
« Où a-t-elle trouvé ?»«
Elle est très au courant, » nota l'artisan. « Mais ces informations datent un peu, » ajouta Galadon.
Raoden, les mâchoires crispées, réfléchissait à toute allure.
« Maresh, dépêche un messager auprès de Karata, qu'elle nous rejoigne à l'université. »«
Oui, messire. »
L'autre est là d'un geste un jeune garçon.
« Oh, et demande à Saolin de nous retrouver ici. Il devra nous protéger tous des sbires de Shaor. Qu'il amène la moitié de ses soldats. »«
Je peux les rassembler si vous le désirez, messire. »
offrit Maresh, toujours prompt à vouloir impressionner son prochain.
« Non. Il faut que tu répètes le rôle d'Aanden. »